Le débat du jour. Michael Ponge.
Bonsoir et bienvenue à tous dans le débat du jour. Voterons, message scandé hier soir encore par des milliers d'étudiants de Barcelone. Et pourtant, à grand renfort de perquisitions, d'arrestations, de confiscations des bulletins de vote ou de prise de contrôle de la police, Madrid fait tout pour l'empêcher, ce vote, mais les autorités catalanes, elles s'obstinent et l'assurent. Dimanche, les Catalans iront aux urnes pour décider de l'indépendance de leur région, en dépit de l'interdiction de la Cour constitutionnelle. Nous irons jusqu'au bout, répète à l'envi Carles Puigdemont, le président de la Catalogne depuis des semaines.
Bien sûr, nous voterons. Qui peut encore en douter ? Des pratiques dignes de pays totalitaires sont perpétrées ici. En coupant l'accès à Internet à des pages parfaitement légales qui ne commettent aucune infraction, ils aident simplement les gens à savoir comment voter.
Le référendum en Catalogne, dernier épisode d'une histoire mouvementée entre Madrid et Barcelone. Comment en est-on arrivé là ? Le point de non-retour est-il atteint ou bien la solution politique est-elle encore envisageable ? C'est le débat ce soir sur RFI. Et pour tenter d'y répondre, je reçois Martí Anglada, délégué du gouvernement de Catalogne en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et José Rojas Alonso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du PSO à Paris, le Parti Socialiste Espagnol, et avocat au barreau de Paris. Merci à tous les deux d'être là. Je le disais, donc Madrid fait tout pour empêcher le scrutin. 2,5 millions de bulletins, 4 millions d'enveloppes saisies encore hier ce midi. Pourtant, les séparatistes assurent disposer de 2300 bureaux de vote. Dans ce contexte, Martí Anglada, est-il encore raisonnable d'organiser un scrutin digne de ce nom ?
Et raisonnable et envisageable. Il y a envie de voter. Les choses sont pas seulement les supposées questions de si ça c'est si on pourra les faire ou on pourra pas les faire. Selon le journal El País, qui c'est un journal clairement contre l'indépendance, dimanche il y a maintenant 12 jours, il a fait un sondage et il y avait, selon El País, 82% de la population de la Catalogne veut voter.
L'envie de s'exprimer, certes, mais l'envie peut-être de s'exprimer dans un cadre
pour
légal.
Pour les oui ou les non, parce que les sondages pour les oui ou les non sont très serrés. Et quelquefois, c'est les non qui l'apportent. Mais en tout cas, 82% veulent voter, envie de voter.
L'envie de s'exprimer dans un cadre légal. Le fait est que ce référendum...
Non, la question du pays n'était pas strictement sur un cadre
ce
légal.
Ce référendum, dimanche, s'il a lieu, n'est pas légal. Il a été interdit. Il ne remplit pas les critères d'un scrutin reconnu. Il n'y a pas de condition électorale.
Je discute l'affirmation qu'il n'est pas légal. Il était interdit par la Cour constitutionnelle. Je pense pas que ça c'est égal à être pas légal. Le Code pénal espagnol interdit pas un référendum. C'est pas un délit. C'est pas un délit.
Ce n'est pas un crime de voter, ce que répète Carlos.
Il était de 2003-2005. On l'a enlevé, on l'a dépénalisé. Alors, si on vote, si on est dans un collège électoral, on commet pas un délit.
José Rojas Alonso, qu'est-ce que vous répondez à Martí Anglada ? Il dit que ce n'est pas illégal d'aller voter dimanche.
Et contre la Cour constitutionnelle, mais pas illégal.
On rappelle que le Parti Socialiste Espagnol, dont vous êtes le représentant ici ce soir, est sur la même ligne que le Parti Populaire, le pouvoir central de Madrid.
Non, on n'est pas exactement sur la même ligne. Il y a quand même beaucoup plus que des nuances entre le Parti Populaire et le Parti Socialiste. Non, sur la question du référendum, notre parti a toujours été très clair. On a organisé ce référendum dans des conditions plus que contestable. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été invalidé par la Cour constitutionnelle, par le tribunal constitutionnel espagnol. Alors, il y a manifestement une envie de la part des indépendantistes d'aller jusqu'au bout, de faire un forcing. C'est très loin du processus, par exemple, qu'on a vu en Écosse. En Écosse, on avait un référendum qui a fait l'objet d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Écosse, qui a été négocié, qui a été tranquillement négocié, sans crispation et sans provoquer l'affrontement. C'est pas du tout ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne et en Catalogne, il y a au Parlement catalan une très courte majorité de députés en faveur de l'organisation du référendum et en faveur de l'indépendance, et cette majorité parlementaire a obtenu une minorité des voix. lorsqu'elle a été élue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dépassé les 48-49%. Donc il y a un vrai problème de légitimité. C'est toute la question. Il n'est pas question pour nous de dire il ne faut pas voter ou ne jamais voter. C'est pas la question. La question, c'est de le faire dans de bonnes conditions, dans des conditions de transparence, avec une vraie campagne électorale. Là, elle a été complètement escamotée. C'est-à-dire que le gouvernement catalan et les députés du Parlement catalan ont joué à cache-cache, sachant très bien ce qui allait arriver. Ils savaient que l'organisation du référendum allait être sanctionné par le tribunal constitutionnel. Ils sont néanmoins allés jusqu'au bout, ils ont fait le forcing, et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'organisation du référendum, depuis quelques semaines jusqu'à aujourd'hui, c'est un immense jeu de cache-cache. Je crois que les Catalans, et les Espagnols méritent un peu mieux que ça. C'est pas un jeu. La démocratie, c'est pas un jeu. Il faut la respecter, il faut qu'elle soit organisée et défendue dans de bonnes conditions. Et là, tout le monde dit, ce n'est pas organisé dans de bonnes conditions. Les Catalans, le dernier sondage, mon interlocuteur parlait de sondages. Bah, des sondages tout récents, d'aujourd'hui, qui ont été publiés par une chaîne de télévision, la Sexta, en Catalogne, pas en Espagne, en Catalogne, qui disent, voilà, question, est-ce que vous pensez que le processus d'indépendance est en train de diviser la société catalane? 60% ont dit oui. 60% des Catalans disent que ça divise la société catalane, mais sans nécessité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le projet de l'indépendance.
Excusez-moi, mais l'argument qu'une votation divise, toutes les élections démocratiques divisent la société, et les urnes unissent, le résultat unissent.
Oui, mais Martín Gladas, les séparatistes catalans, ce ne sont pas eux qui se comportent de manière anticonstitutionnelle. Ils mettent en avant cet argument de l'anticonstitutionnalité de Madrid. Est-ce que ce n'est pas vous, finalement, les séparatistes, qui vous comportez de manière antidémocratique en voulant aller jusqu'au bout de ce processus et tenir le vote du dimanche?
Une précision, oui, pour répondre à votre question. Nous avons un Parlement. Monsieur Rochas disait qu'il y avait une courte majorité pour le référendum. Attention, pour le référendum, nous avons maintenant 72 plus 11. Madame Colau a signé une lettre.
Elle n'est pas députée.
Hier, il y avait Monsieur Íñigo Errejón avec Madame Colau, Monsieur Domènech, ils sont tous pour Monsieur Iglesias, Podemos et pour le référendum en Catalogne.
Oui, mais Podemos est un parti espagnol. On aimerait bien écouter la voix des autres.
Distinguer.
Podemos, c'est le quatrième parti au Parlement espagnol. C'est le quatrième. C'est ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Non, nous, le Parti Socialiste, nous sommes le troisième parti.
Le quatrième est Ciudadanos. Non, il ne faut pas confondre.
Le troisième est Podemos. Alors, le deuxième est plutôt socialiste. Oui, et effectivement, oui. J'ai fait une erreur. C'est le troisième.
C'était une erreur.
Mais le Parti Socialiste, c'est le deuxième parti. Il a autant de légitimité à exprimer son point de vue sur l'organisation de ce référendum qui, pour nous, n'offre pas des garanties démocratiques. La question, elle est là. Pourquoi on fait ce référendum dans des conditions aussi contestables et qui divisent la société catalane? C'est-à-dire que là, on est en train de créer crispation.
Au Parlement, il y a une majorité pour le référendum, 62% des députés. Presque des tiers. Si ça se courte.
Non, ça n'a pas été compté comme ça parce que
si ce référendum se tient dimanche, Martín Anglada, première question et la plus essentielle finalement, c'est la question de la participation. À quelle hauteur le résultat est-il acceptable?
Exactement. La chose la plus importante, la légitimité d'un référendum, vient donnée par la participation dans les référendums.
Compte tenu, on le rappelle, que les opposants au référendum, le boycott, n'iront pas voter. Donc forcément, le oui l'emportera.
On va voir.
Mais avec quelle légitimité? S'il n'a déjà pas la légitimité constitutionnelle, juridique, et qu'il n'a pas en plus la légitimité populaire, qu'est-ce que vous répondez?
Ça, c'est pas exactement comme vous disiez. Parce qu'il y a un Parlement, il faut pas jamais oublier, une démocratie, un Parlement élu en Catalogne, et 62% des députés sont pour un référendum.
Oui, mais on parle pas des députés, c'est dimanche. Parle simplement des gens qui vont se déplacer, qui vont aller voter.
Ah non, mais je vous dis, il y a 62% des partis qui recommandent à ses électeurs d'aller à voter.
Qui recommande d'aller voter, le terme est bien choisi, et on a des maires socialistes qui font part aussi d'intimidation quand ils refusent.
Les socialistes, Parti Populaire et Ciudadanos ensemble,
José Rojas Alonso,
ils font 38% seulement du Parlement. 38.
José Rojas Alonso, des maires socialistes qui font part de pression parce qu'ils ne veulent pas organiser ce référendum dimanche.
Bien sûr, il y a des pressions, il y a des mouvements très graves en Catalogne qui poussent à la crispation et à l'affrontement. C'est-à-dire, on a eu le cas de journalistes police, de personnalités dont, qu'on accusait de timidité par rapport au processus du référendum sur l'indépendance, et à qui ça rappelle, si vous voulez, des mauvais souvenirs, parce qu'on oblige les gens à prendre parti pour le oui ou pour le non. Mais moi, la question qui se pose en Catalogne, comme dans le reste de l'Espagne et partout, c'est pas de savoir est-ce qu'on met une frontière pour se faire plaisir. Et est-ce qu'on met un document d'identité catalan au lieu du document d'identité espagnol pour se faire plaisir? La question, c'est de savoir pourquoi. Quand on voit ce qu'a fait le gouvernement catalan, dont nous avons un représentant aujourd'hui, sur ces dernières années, en termes de gestion des ressources de la Catalogne, en termes de pression fiscale, etc., c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Donc si c'est ça, vers l'orientation que va prendre la Catalogne après l'indépendance... C'est le pays, c'est la Catalogne, c'est la région où il y a le plus de pression fiscale. C'est là où on paye le plus d'impôts. C'est là où les revenus modestes payent le plus d'impôts sur le revenu. Il faut le savoir. Moi, j'ai des chiffres. Là, on n'a pas le temps de développer sur les chiffres. Mais je suis prêt à vous les montrer. Les chiffres disent, les statistiques officielles disent, c'est la Catalogne et la région la plus endettée d'Espagne, loin devant les autres, très loin devant les autres. C'est pourtant celle où on paye le plus d'impôts. Tout le monde le sait en Espagne qu'on paye énormément d'impôts, y compris au niveau des péages d'autoroutes. On le sait.
Donc il y a un problème de gestion. C'est aussi celle qui participe à la richesse du pays avec son tourisme. Et cette question financière, économique, est un des arguments des séparatistes. C'est pour dire qu'on ne veut plus payer.
C'est un argument qui est défensif. En tout cas, si vous voulez, je peux rentrer dans les questions économiques. Mais c'est pas l'argument principal. L'argument principal, c'est notre. C'est démocratie oui ou démocratie non, maintenant. C'est pour ça qu'il y a un gros parti, les communes, les Podemos, qui ne sont pas pour l'indépendance, mais ils sont pour voter.
Oui,
parce que c'est qu'on j'ai maintenant, c'est on n'est pas un sujet politique. La Catalogne est ou n'est pas un sujet politique.
Martin Gladar, on peut vouloir voter sans pour autant voter pour l'indépendance, on peut être nationaliste sans pour autant être séparatiste.
Exactement, et on peut voter non, mais on peut vouloir voter. Regardez, Podemos, les sondages internes qu'ils ont, 40% pour le oui, pour l'indépendance, 60 contre. Mais ils sont tous pour voter. Alors il faut comprendre qu'il y a quelque chose de plus qu'indépendance, oui ou non. Il y a démocratie, oui ou non. La Catalogne est un sujet politique, oui ou non.
On évoque la légitimité de ce scrutin, José Rojas Alonso. Est-ce que finalement, cette légitimité, les indépendantistes ne la trouvent pas dans le dernier tour de vis, là opéré par Madrid, on le disait, confiscation des bureaux de vote, ce jeu du chat et de la souris?
Oui, mais c'est toute la question. C'est-à-dire que je crois que le vrai point central dans cette histoire de référendum, quel est-il? C'est le fait de savoir si on peut avoir un débat serein, un débat ouvert, pacifique, sur les conditions du chemin vers l'indépendance de la Catalogne. Moi, les éléments que j'ai donnés, c'est des éléments de réflexion objectifs. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, une Catalogne indépendante, aujourd'hui, elle est viable? Est-ce que oui ou non, elle va suivre le modèle de ce qui a été fait par le gouvernement régional ces dernières années? Moi, si c'est ça le chemin, moi je dis non. Parce qu'il y a une pression fiscale intolérable qui frappe toujours les plus bas revenus. Il y a une gestion des ressources qui n'est pas bonne. Il y a des réclamations de compétences de la part de la Catalogne qui fait que, voilà, aujourd'hui, on a eu pendant longtemps une gestion de la région de Catalogne qui était toujours de dire on veut plus de compétences, et là aujourd'hui on a l'impression que le débat sur l'indépendance cherche à cacher d'autres choses. Je m'explique. Je vais donner des exemples, par exemple on ne dit pas parce que là on critique le tribunal constitutionnel. Moi je veux bien, c'est le tribunal constitutionnel espagnol. C'est, l'Espagne est un état de droit, on peut faire des recours contre les décisions des tribunaux, etc.
Alors, ce qui s'est passé avec les tribunaux constitutionnels.
Alors, pendant 2010, dernier point, et ça on n'en parle pas du tout dans la campagne, à part le fait, bon, dire quel est le projet pour une Catalogne indépendante, on ne sait pas, parce que ceux qui sont en faveur de l'indépendance ne sont pas d'accord entre eux. Donc on ne sait pas.
Mais c'est aux Catalans de décider. C'est aux Catalans de décider oui ou non. Parce que c'est un sujet politique. Alors, vous disiez la Cour constitutionnelle. Magnifique, on va parler de la constitutionnelle. En 2006, on a approuvé une nouvelle loi de la Catalogne. Alors, la Cour constitutionnelle, il n'y avait pas une majorité des magistrats du Parti Populaire. Alors, ils ont attendu 4 ans.
Révision
en 2010.
Ils ont
révisé les magistrats. On a attendu la mort d'un magistrat. Et quand ils ont eu la majorité en 2010, 4 ans après, on a tombé la loi.
Voilà, ça, c'est la loi qui notamment reconnaissait un statut de nation, en fait, à la Catalogne.
Oui, ils ont tombé ça. Après quatre ans, en attendant qu'un magistrat mort et que l'autre soit requisé.
Martín Glada, qu'est-ce que vous répondez à José Rojas Alonso quand il dit une Catalogne indépendante n'est pas viable?
Ça, c'est contraire à toute l'opinion de tous les économistes, de la Paris School, de la London School, de Princeton, de Harvard, tout le monde.
Une Catalogne en plus sortie de l'Union Européenne, puisque la ligne est très claire, hein, un État indépendantiste.
Je vais expliquer une chose. Si on parle d'économie, je vais expliquer une chose. En Allemagne, entre les Landers, que c'est les États fédéraux allemands, il y a des transferts d'argent, comme en Espagne, entre les communautés autonomes. Mais le maximum en Allemagne est entre 4 et 5% du PIB. Ça veut dire que des PIB, ça veut dire que la Bavarie va payer pas de 5% du PIB à Berlin ou à l'Allemagne de l'Est.
Ça n'existe pas.
Selon les chiffres, pas à moi, du ministère de l'économie espagnol, chaque année la Catalogne donne le reste de l'Espagne entre 8 et 10% de son PIB.
Et c'est votre argument.
C'est un déséquilibre absolu.
José,
alors on nous dit, vous pouvez appuyer.
J'aimerais rebondir là-dessus parce que ça fait partie des arguments.
Ce sont les chiffres du ministère de l'économie espagnol.
Ça fait partie, cette histoire des landeurs allemands qui distribuent, etc. Non, c'est complètement faux, ça n'existe nulle part. Et c'est un mythe qui a été monté de toutes pièces.
Pour justifier. On ne peut pas dire mensonge. Il y a un temps de Carl Rowe qui ne dit pas les chiffres. Il ne dit pas la chiffre.
Ah.
Mais il dit, il faut respecter les principes d'ordinalité. Jamais un État donnant ne peut pas être renversé par un recevoir. Alors ça, en Espagne, non, n'existe pas.
Je pense que ce que veut dire M. Angladas, et il le dit plutôt dans les mauvais termes, c'est qu'il y a une obligation dans un État de droit, l'Allemagne, l'Espagne, comme partout.
Votre parti, le Parti Socialiste, a refusé les principes d'ordinalité à Granada.
Alors,
ils ont refusé.
N'oubliez pas ça.
Vous êtes la cause aussi des problèmes.
Monsieur, il nous reste peu de temps.
Maintenant, on est la cause de tous les problèmes.
Il nous reste peu de temps. On va essayer d'avancer un petit peu, messieurs, s'il vous plaît.
Sur ce point-là, c'est un mensonge de dire que en Allemagne, il y a un chiffre. D'ailleurs, on vient de le reconnaître.
Non, il y a un ordre de respecter le principe d'ordinalité. Et ça, à la pratique,
non, il y a un principe fondamental. Il y a un principe fondamental qui est celui de la solidarité.
Non, c'est le principe d'ordinalité.
C'est le principe de la solidarité. Et ça s'applique à l'Espagne, à l'Allemagne, mais ça s'applique aussi à l'Europe.
À l'Espagne, voilà. S'applique pas. Non, l'Espagne s'applique pas. Mais je vais vous raconter une chose. Nous sommes la quatrième en richesse, pas la première. Quand on dit toujours la plus riche, c'est Madrid la plus riche. Les Pays-Bas, c'est le deuxième, la Navarre, le troisième. Nous sommes les quatrièmes. Après les transferts d'argent, nous tombons à la huitième. Ça se passe pas en Allemagne.
Ben, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que la Catalogne a la dette publique la plus importante de l'Espagne.
Et ça montera.
Ça représente 27% de la dette publique totale, alors que la Catalogne n'a que 16% de la population. Il y a un déséquilibre manifeste qui ne vient pas de l'Espagne, parce que les régions en Espagne, tout le monde le sait, ont une grande partie de pouvoir de gestion des impôts qui correspondent à leur territoire.
José Rojas Alonso, le Parti Socialiste que vous représentez encore une fois, je le répète, propose une troisième voie, propose une Espagne fédérale, avec donc des États plus forts.
Et on dit rien, on dit une réforme en direction fédérale, point. Ça fait tout qu'on dit.
Donc on le comprend, Martin Anglada, vous n'en voulez pas.
Ce n'est pas une solution. On voulait savoir, pas du tout. On voudrait savoir plus précision, c'est ça. Mais quand on dit seulement, on va faire une réforme de la Constitution en direction fédérale, point. Alors, ça c'est tout qu'on dit.
Parce que la différence peut-être entre la solution que nous proposons et la solution des indépendantistes, c'est qu'on n'est pas uniquement dans le discours et dans l'attitude. On est dans un processus de réflexion. Il y a un problème effectivement catalan en Espagne.
Il y a des solutions
pour tout, à condition de savoir dialoguer et à condition de ne pas provoquer des affrontements là où il n'y a aucun besoin d'avoir des affrontements. L'Espagne des régions, elle a vécu très très bien jusqu'à ces dernières années. La preuve, c'est quoi? C'est le Pays Basque espagnol. Le Pays Basque espagnol avait une revendication...
Ils ont un régime spécial. Ils ont un régime de concierto économique.
Vous voyez, c'est un peu compliqué de débattre quand on est interrompu.
Est-ce que la solution politique aujourd'hui est envisageable ou non? C'est le référendum, c'est la déclaration d'indépendance du
envisageable
et
toujours le dialogue. Ça, c'est envisageable toujours.
Et cette troisième voie, elle ne vous satisfait pas?
Il faut la préciser. Ça suffit pas de dire une réforme constitutionnelle en direction fédérale. Qu'est-ce que ça veut dire? La Catalogne sera ou pas un sujet politique ici.
José Rojas Alonso, dernière question. Est-ce que c'est la maire de Barcelone, hier ou avant-hier, qui en a fait l'appel? Est-ce que l'Union européenne doit mettre son grain de sel là-dedans et proposer un rôle de médiation?
Je pense pas que ça soit indispensable. Bien évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il est bien évident que si ça peut aider au dialogue, pourquoi pas. Mais moi, ce que je constate, c'est que Là, on nous reproche, par exemple, aux socialistes de ne pas préciser un projet d'Espagne fédérale, mais on n'a pas répondu à ma question tout
vous
à l'heure, de savoir l'indépendance, pourquoi faire. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'on ne sait pas pourquoi faire. On ne sait pas si ça va créer des richesses supplémentaires, on ne sait pas si on va baisser les impôts, on ne sait pas si on va les augmenter.
Donc, il y a beaucoup de mythes. Parce que les socialistes sont divisés sur ce projet.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir débattu. Merci à Nicolas Benita pour la réalisation. Florence Ponce à la préparation.